l'indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Mais j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous et avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Tourcoing, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine.
Bref, cette émission, c'est comme avec la réouverture du Grand Mix de Tourcoing, ça nous invite à ouvrir grand nos oreilles. Bonjour Étienne.
Bonjour Laurine. Alors cette semaine, tu m'as dit que tu allais nous parler d'un sujet en prolongement d'un épisode de la saison 1 de Splash.
Oui, dans ton épisode consacré à l'immigration, tu te posais la question suivante. Si des populations se déplacent d'un territoire à un autre, quelles en sont les conséquences économiques pour le territoire d'accueil? Eh bien, je te propose qu'on poursuive ici la réflexion, notamment sur le territoire de départ. On sait que les immigrés envoient ensuite de l'argent vers leur pays d'origine, via des canaux comme Western Union par exemple. Et ça représente de sacrées sommes. Plus de 700 millions de personnes à travers le monde vivraient de ces envois d'argent selon la Banque mondiale. Donc Étienne, je te propose qu'on essaie ici de voir quel est l'impact réel de tout cet argent pour les économies des pays qui les reçoivent.
Qu'apporte l'argent des migrants au développement?
Avant de commencer, faisons un point pour être clair sur les termes. On parlera dans cet épisode de remise migratoire. Dans le langage courant, on parle plutôt de transfert d'argent, ce qui signifie en fait la même chose. On écoute l'économiste Jean-Noël Sen, maître de conférence à l'université Paris-Saclay, spécialiste d'économie du développement et des migrations internationales.
En fait, le mot anglais, ça c'est remittances, c'est le mot exact. Donc on l'a traduit en français en remise migratoire, mais en fait, il n'y a pas vraiment de traduction. Donc en français, il va y avoir remise migratoire ou transfert de fonds. C'est la même chose.
Donc les remises migratoires sont, pour être clair, l'argent qu'un migrant, par exemple turc ou algérien, envoie de France, le pays où il vit, à ses parents ou ses proches restés dans son pays d'origine, la Turquie ou l'Algérie.
Oui, mais attention, il faut quand même préciser le terme de migrant. Parce que bon, on entend souvent dire qu'un Européen qui a quitté son pays est un expatrié, alors qu'on qualifie un Africain d'immigré ou de migrant.
C'est vrai, techniquement, les deux termes veulent dire la même chose.
Sauf à considérer qu'un expatrié change de pays de façon volontaire, tandis qu'un immigré ou un migrant fuit son pays de façon davantage contraint, dans l'espoir d'une vie meilleure.
Et on arrive à mesurer ces transferts d'argent?
C'est ce que fait la Banque mondiale. Elle enregistre dans un premier temps l'ensemble des flux de transferts d'argent, de proche à proche, dans le monde. 613 milliards de dollars en 2017. Ce qui représente quand même le poids d'un cinquième du PIB français ou 1% du PIB mondial. Dans un deuxième temps, elle se concentre sur les flux de transferts vers les pays à faible revenu, ou à revenus intermédiaires. 466 milliards de dollars en 2017.
En gros, les trois quarts des flux vont vers les pays en développement. Flux qui progressent rapidement ces dernières années, ils ont été multipliés par 1,5 entre 2009 et 2015.
Rien que sur l'année 2017, on a atteint des records. Le total des flux dans le monde a augmenté de 7%. Et ce qui concerne uniquement les pays en développement, nos remises migratoires, ont même bondi de 8,5%. Mais on réécoute Jean-Noël Sen.
Après, il faut faire un peu attention avec ces chiffres, parce que en pratique, déjà d'un, c'est parce qu'on les mesure mieux depuis 30 ans. Avant, on les mesurait pas ou très mal. Et donc la Banque mondiale et notamment les organisations internationales ont fait un gros effort en fait de comptabilisation de ces flux d'argent qui sont assez énormes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont commencé à les comptabiliser. Donc de fait, il y a une augmentation qui est un peu artificielle, qui est faite que comme on les comptait pas avant, maintenant on les compte. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Donc on a quand même une certitude qu'ils augmentent. Mais il faut se méfier un peu des chiffres. Mais bon, il n'y a pas de doute que ce sont des transferts assez importants. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on les mesure mieux, mais on les mesure toujours très mal, hein, parce que ce que vont comptabiliser notamment la Banque mondiale, mais globalement tous les organismes internationaux, c'est tous les transferts officiels, en fait.
Pour essayer de comprendre quelles sont les conséquences économiques des remises migratoires, il faut déjà avoir en tête que ce que l'économiste mesure, c'est l'argent qui transite via les banques. Ou via les organismes spécialisés comme Western Union ou MoneyGram. Mais en réalité, l'argent transite à travers plein d'autres mécanismes mis en place par les migrants. Ça peut se faire de la main à la main ou grâce au système de tontine. Pour comprendre comment ça marche, je suis allée prendre le thé chez un ami qui a longtemps travaillé sur le terrain dans une association militante.
Ouais, donc tu disais les tontines.
Ouais, il y a deux trucs en fait. Alors c'est, les tontines, c'est un peu différent, mais je pense que ça participe du système économique, si tu veux, interne aux populations migrantes et notamment africaine.
Jean-Claude Mas a été secrétaire général de la CIMAD, une association qui accueille et défend les droits des personnes réfugiées et migrantes. Il m'a donc expliqué comment ces canaux informels permettent d'acheminer à moindre frais des sommes d'argent collectées à plusieurs.
C'est un système au sein d'une communauté, au sein d'un collectif, de ça qui peut 10, 15, 20, 25 personnes. Chacun, chaque mois, va contribuer à une manne financière par rapport de, tu vois, 15, 20, 30, 100 euros, je ne sais pas combien. Et ensuite, le principe de la tontine, c'est qu'une des personnes de la communauté profite de l'ensemble de la manne. Comme si chacun avait prêté un petit peu d'argent pour constituer une somme suffisamment importante qui permette à une personne d'entre elles de pouvoir utiliser cet argent. Et le mois d'après ou l'année d'après, mais ça tourne et c'est une autre personne de la communauté, du petit groupe, qui va bénéficier à son tour de l'ensemble de la collecte des fonds du petit groupe.
1574, 1600, on partage, hein, parce que sinon ça sera trop long. On est combien, on a dit, on était 14, hein, c'est ça? Ben 14, 100 francs, ça ferait 1400, 110, ça va tout englober, on va pas chipoter. Tac, ça fait 110 par personne, voilà.
D'après la Banque mondiale, le coût moyen d'un transfert officiel était environ de 7,1% au premier trimestre de 2018. Par exemple, si vous voulez envoyer 200$ à votre famille, ça vous coûte environ 14$ de frais. Alors, ça varie évidemment selon les sommes envoyées. Plus les montants envoyés sont importants, plus les frais sont faibles en proportion.
Et ce taux serait deux fois plus élevé que la cible de 3% fixée dans les objectifs de développement durable des Nations Unies.
Les transferts, ce n'est pas qu'au football. Regardez.
Reda transfère de l'argent à Karim, qui passe en retrait à Tariq pour acheter un nouveau vélo, oui! Et on revient vers Moussa, qui transfère de l'argent à sa mère, elle contrôle, partage avec ses sœurs, et part au marché, oui!
Les transferts qui marquent, c'est avec Western Union et la Banque Postale.
Pour bien comprendre l'origine et la destination de tous ces flux, la Banque mondiale classe les économies du monde en quatre groupes, en partant du revenu national brut par habitant. On a d'abord les pays à revenus élevés, les pays à revenus intermédiaires élevés, les pays à revenus intermédiaires bas et les pays à bas revenus. Côté provenance des transferts, d'après l'économiste Helmut Mood, spécialiste que tu avais interrogé dans l'épisode sur l'immigration, on trouve les États-Unis, suivis de l'Arabie Saoudite, de la Suisse et de l'Allemagne.
Autrement dit, des pays à haut revenu.
Oui, mais on a aussi des flux sud-sud qui sont loin d'être négligeables. En 2006, ça représentait 30% des remises migratoires. Côté destinataire, en tout cas, ce serait bien des pays en développement qui recevraient le plus de remises migratoires. Et parmi ces derniers, les pays dits à revenus intermédiaires en profitent le plus.
Selon les dernières données disponibles, les principaux bénéficiaires sont l'Inde avec 69 milliards de dollars, suivi par la Chine, 64 milliards de dollars. On a ensuite les Philippines, 33 milliards, le Mexique, 31 milliards, le Nigeria, 22 milliards et l'Égypte, 20 milliards de dollars. Donc finalement, on voit que les pays les plus pauvres ne sont pas les principaux bénéficiaires de ces remises. Ce qui est logique, car les migrations sont surtout le fait de populations qui ont quelques ressources pour financer la migration. C'est donc plus facile de migrer quand on vient de pays à revenus intermédiaires et les flux de transfert sont ensuite plus nombreux de ces pays-là. Mais ce sont dans l'ensemble des sommes énormes. J'ai même l'impression que c'est plus important que les sommes versées par les États au titre de l'aide au développement, non ?
Pour essayer d'en savoir plus, j'ai contacté par téléphone l'économiste Isabelle Schor, qui est professeure des universités à Pau. Elle a comparé, dans un article « Remises migratoires et redistributivité », les flux privés des remises migratoires et les flux publics d'aide au développement.
L'aide au développement va par définition aux pays les plus pauvres. Donc c'est un transfert progressif dans le sens où les plus pauvres vont recevoir davantage. Ça a tendance à diminuer les inégalités. Alors que les autres transferts financiers sont régressifs, c'est-à-dire que les plus riches reçoivent davantage. Donc ici, dans les flux financiers que l'on compare, donc il y a l'aide d'État, donc c'est-à-dire l'aide au développement, les remises migratoires, les capitaux privés. Donc capitaux privés, c'est les investissements directs étrangers, ou les flux commerciaux, donc les exportations. Donc les flux commerciaux, les capitaux privés sont des transferts qui sont régressifs puisque donc ils ont tendance à accroître les inégalités entre pays. Ce sont les plus riches qui vont recevoir davantage.
Donc si on prend en compte tous les flux d'argent entre pays, on a trois situations différentes. Premièrement, l'aide au développement cible les pays les plus pauvres avec un objectif clair, favoriser la croissance de ces pays-là. Deuxièmement, les remises, elles, s'adressent davantage vers les pays à revenus intermédiaires. Troisièmement, Les capitaux privés, par exemple les IDE, investissements directs à l'étranger, se dirigent beaucoup plus vers les pays développés et pays à revenus intermédiaires.
Oui, ces IDE sont des capitaux privés transférés par des entreprises afin d'acquérir des sites de production situés à l'étranger. Et c'est rare que ces entreprises investissent dans les pays les plus pauvres qui manquent d'infrastructures ou de stabilité politique.
Les remises migratoires sont, selon les données que l'on a exploitées, plutôt régressives, mais parmi les transferts financiers, ce sont les moins régressifs de ces transferts. C'est-à-dire que par rapport aux capitaux privés, les transferts issus des migrants vont moins aggraver les inégalités entre pays.
Toujours donner le meilleur sans oublier les siens. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, que des choses à partager. Profitez de 0 euro de frais de transfert pour votre première transaction.
Ce qu'explique ici l'économiste Isabelle Schorr, c'est que si les transferts des migrants peuvent augmenter certaines inégalités entre pays, en allant davantage vers des pays relativement moins pauvres que d'autres, ils le font bien moins, par exemple, que les investissements directs à l'étranger, les IDE.
Et ces remises sont quand même une manne importante pour les pays les moins avancés, c'est bien ça ?
Et oui, c'est ce qu'explique Jean-Noël Sen, qui compare aide au développement et remise des migrants.
Ce qu'on sait, c'est que les transferts des migrants, aujourd'hui, alors ça dépend des années, mais c'est 3 à 4 fois le montant accordé au titre de l'aide au développement mondial. Donc, c'est des transferts qui sont beaucoup plus importants. L'aide au développement, finalement, c'est la source de revenus la plus faible pour ces pays-là. Les transferts des migrants les dépassent très, très largement aujourd'hui pour beaucoup de pays.
Dans de nombreux pays dits moins avancés, la manne financière des transferts représente finalement une part essentielle de leur économie. C'est le cas, par exemple, au Mali, où elle pèse 10% du PIB. Ou encore au Maroc, cette part s'étant quand même réduite autour de 7%.
Et pour les pays les plus pauvres, les remises représentent jusqu'à 36,5% du PIB comme pour le Tadjikistan ou encore 22% du PIB pour Haïti.
En volume, les montants des transferts sont plus faibles vers les pays les moins avancés. Mais comme ces pays ont une faible économie, ces transferts représentent une proportion plus importante de leur PIB. Ces pays sont en fait dépendants de ces remises, avec les risques d'inflation que ça comporte, car ça augmente la masse monétaire présente dans ces pays. Et ça incite les commerçants à augmenter leurs prix.
Mais c'est tout de même une source de revenus très importante pour les populations les moins avancées. Ça leur permet de pouvoir consommer un peu plus, éventuellement d'investir ou d'épargner. C'est plutôt une bonne chose.
Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il semble que l'augmentation des flux de remises soit de plus en plus en faveur des pays moins avancés. Car les calculs sont très marqués par la démographie des pays, notamment de l'Inde et de la Chine, comme l'explique Isabelle Schorr.
Donc, ce sont deux gros pays en termes de population. Donc, ces pays ont eu des flux migratoires plus importants, enfin des migrants indiens et chinois. Donc, il y a eu plus de participation à la migration internationale. Et donc, de fait, enfin, étant donné la taille de ces populations, les remises reçues par ces deux pays ont fortement augmenté sur la période étudiée. Donc pour l'Inde, entre 90 et 2000, pour la Chine, entre 2000 et 2008, puisqu'on s'arrête, je crois, en 2008. Donc ça, mécaniquement, si vous voulez, étant donné la taille de ces deux pays, ça va expliquer les effets que l'on trouve, c'est-à-dire le fait qu'il y a une distribution moins inégalitaire des remises entre pays. D'accord. C'est simplement un effet un petit peu mécanique dû à la taille de ces deux pays. Si on exclut ces deux pays, qui sont très particuliers par leur taille, par leur population, on voit qu'il y a une évolution plutôt favorable, mais qu'il est moins que lorsqu'on prend en compte l'Inde et la Chine.
Donc si je comprends bien, si les remises augmentaient beaucoup pour les pays à revenus intermédiaires, c'est surtout parce que la démographie de l'Inde et de la Chine était en forte expansion. Mais cette tendance démographique s'estompe. Donc les remises pourraient avoir, à terme, des effets plus favorables de réduction des inégalités entre pays.
Exactement. Poursuivons sur la question des inégalités entre pays avec un dernier élément. Les remises, à l'inverse des investissements directs à l'étranger, seraient moins volatiles. Autrement dit, elles subiraient moins les aléas des marchés et pourrait même avoir un effet contracyclique.
Ok, alors en économie, on parle d'effet contracyclique lorsqu'un élément économique joue dans le sens inverse des cycles de croissance. Ici, les remises ont un effet très favorable dans les périodes de crise pour les pays les moins avancés, car c'est une ressource essentielle qui limite les effets des récessions.
alors que les investisseurs étrangers font l'inverse. Notamment ceux des pays développés. Ils freinent fortement, voire stoppent leurs investissements lors des crises dans les pays les moins avancés.
C'est ce qu'on a vu avec la crise des subprimes. Les agences de notation qui sont chargées d'attribuer des notes, même au pays, vont estimer que le risque de crédit s'est accru et vont descendre la note des pays à fort risque. Cela entraîne un cercle vicieux pour ces pays.
Donc les remises sont une roue de secours en cas de crise. Surtout quand on sait que les investisseurs étrangers ont tendance à retirer leurs investissements. Si on prend le cas de la crise asiatique de 97-98 en Indonésie, ou en Turquie avec la crise financière de 2000, des travaux comme ceux de l'économiste indien Dilip Ratta ont montré que les flux de remises ont certes été affectés par ces crises, mais là encore, moins que les flux de capitaux privés.
Pour faire simple, si on habite en France, on n'a pas été touché par la crise asiatique de 98. Donc on peut continuer de transférer des sous à sa famille au Vietnam par exemple. Les flux mondiaux de remises seraient 17 fois moins volatiles que les flux d'investissement direct à l'étranger et 74 fois moins que les exportations sur la période 1980-2003. Donc, pour résumer, les remises représentent des montants bien plus importants que l'aide au développement. Ces remises sont peu volatiles et très utiles en cas de crise. Et ces remises se dirigent davantage vers les pays à revenus intermédiaires, mais ça commence à se rééquilibrer en faveur des pays les moins avancés. Bon et alors, est-ce qu'on arrive à mesurer précisément l'impact de ces remises sur les économies locales ?
Écoutons Isabelle Chor.
En fait, ça va dépendre du contexte. Il y a des travaux qui montrent que les remises des migrants vont permettre l'investissement des ménages qui reçoivent. Par exemple, ça va permettre de monter des petits commerces, de faire des petits investissements ou d'acheter de l'immobilier, par exemple. Et en même temps, on sait aussi que les transferts vont permettre de financer la consommation des ménages d'origine. Donc, les deux aspects peuvent jouer au niveau des transferts.
Mais il faut rester prudent, car comparer les dépenses du ménage, avant et après remise, est une opération compliquée. En partie parce que s'il n'avait pas migré, le migrant aurait sans doute perçu un revenu du travail dans son pays d'origine. De même, il n'est pas facile de savoir à quoi servent précisément les remises. Il est difficile de savoir si l'argent est investi, ce qui serait a priori plus profitable au pays, ou consommé, et par qui précisément dans le ménage. Une chose est sûre, comme tu l'avais montré dans ton épisode sur l'immigration, ce ne sont en réalité pas les ménages les plus pauvres qui migrent vers les pays développés.
Oui, ils sont dans l'impossibilité de faire face aux coûts élevés de la migration, que ce soit le coût du transport, des passeurs, etc.
Du moins à court terme, parce qu'à mesure que les réseaux de migration se développent, il semble que le coût de la migration puisse se réduire. Des individus parmi les ménages les plus pauvres peuvent alors y participer et leurs familles profiter des remises associées. Money. En tout état de cause, tout ça réduit bien la pauvreté. D'après une étude de la Banque de Luxembourg, 75% de l'argent des remises est utilisé pour les dépenses courantes, 8% pour des projets immobiliers, 5 à 8% pour des dépenses de santé urgentes, 5% pour des projets économiques et familiaux, et enfin 5% pour les aménagements collectifs, comme les routes ou les écoles. Mais encore une fois, il faut rester mesuré sur ces effets.
Alors, ce que l'on sait aujourd'hui sur les transferts et sur lequel on a un peu de certitude, c'est que ça ne génère pas de croissance très forte dans les pays qui les reçoivent. En revanche, on sait que ça a contribué quand même à réduire la pauvreté, c'est-à-dire à la couverture des besoins de base pour les familles qui les reçoivent, à augmenter leur niveau de consommation, à réduire la morbidité aussi, c'est-à-dire la santé des enfants, la santé des familles. Ça, c'est assez clair, on le sait. Ça a permis, en tout cas, une grande question en économie, et notamment en économie du développement, c'est ce qu'on appelle les trappes à pauvreté. Et donc, effectivement, il y a un peu un consensus aujourd'hui dans la littérature pour dire que les transferts des migrants permettent à certaines familles d'échapper à ces trappes à pauvreté.
Sans oublier que les transferts des migrants ne sont pas que matériels.
C'est-à-dire, les migrants, en fait, ils ne transfèrent pas que de l'argent. En fait, les migrants transfèrent aussi ce qu'on appelle des normes sociales. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent que les migrants sont des vecteurs de changement démocratique. Ils transfèrent des normes. Il y a eu beaucoup, par exemple, certains papiers de recherche qui ont montré que dans les régions où il y avait des fortes propensions migratoires, les institutions locales étaient beaucoup plus démocratiques, fonctionnaient mieux, les gens participaient aux élections, etc. Avec l'idée que le migrant qui avait immigré dans des pays plus démocratiques, ben, finalement, transférait aussi ses normes dans leurs normes dans des pays d'origine. Il y a aussi des travaux qui ont montré que les régions où il y avait beaucoup plus de propension migratoire, ben, il y avait moins d'excisions, la fécondité était aussi plus faible. Donc, en fait, il y a toute une voie de recherche aujourd'hui qui s'intéresse à l'impact sur le développement, pas à travers l'argent, mais à travers ce qu'on appellerait donc les social remittances, donc des espèces de transferts sociaux, des transferts de normes.
En conclusion, les remises ne sont pas le miracle de développement qu'on attendait pour réduire les inégalités entre pays. Mais c'est évident qu'elles contribuent à réduire la pauvreté dans l'ensemble. Et ce qui est plus étonnant, c'est que cette réduction de la pauvreté ne se fait pas uniquement de manière monétaire. Elle s'opère petit à petit par une modification des comportements à travers le changement de normes et de valeurs. Et là, c'est tout un champ de recherche qui s'ouvre devant nous, où il faut croiser économie, sociologie, sciences politiques, pour réussir à bien prendre en compte toutes les dimensions des effets de la migration sur les pays de départ.
Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash. Pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission de moi, Étienne Tabagne.
Co-animée et co-écrite avec moi, Lorraine Melka.
Produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux. Montée et coordonnée par Marine Rowe. Mixée par Laurie Galligandi.
Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast. Et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite!